L'Éden de Satan 34. La condition des gens au temps de la fin. Point 6 mars 2022. Pasteur Brian Kozurek. Maintenant, pour notre prédication de ce matin, j'aimerais prendre notre texte à partir du paragraphe 13 de l'Éden de Satan. 13 maintenant. Comparons certaines écritures ou prophéties dont parle la Bible pour aujourd'hui, et comparons-les avec le jour dans lequel nous vivons maintenant. Dans 2 Timothée 3, nous avons appris ceci, que le prophète a dit qu'il arrivait en ces jours-ci, que les hommes seraient hautains, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu. Comparez cela maintenant, juste un instant. Nous n'allons pas. Nous allons juste faire un briefing, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour parcourir tout cela comme nous devrions le prendre dûment, mais juste pour le mettre en évidence, afin que vous puissiez voir quand vous rentrez chez vous et l'étudiez. Hautain, hautain d'esprit, aimant le plaisir plus que Dieu, briseur de trêve, faux accusateur, incontinent et méprisant de ceux qui sont bons. Maintenant, l'Esprit a dit expressément que ces choses seraient dans les derniers jours. C'est Esther de ce jour-ci que la prophétie parle. 2 Timothée 3, 1 sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La version NIF de la Bible le traduit comme suit, et pendant que je lis tous ces attributs et caractéristiques des gens du temps de la fin, je veux que vous fermiez juste vos yeux et pensez aux circonstances où vous avez vu ces attributs être exprimés dans nos infos journalières que nous recevons, qu'importe la source que nous avons choisie pour les avoir. Nif de Timothée 3, 1. Mais notez ceci, il y aura des temps terribles dans les derniers jours. Ok. Alors Paul, qu'est-ce que ces jours terribles vont-ils apporter? Puis il dit, deux les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Maintenant, nous avons tous rencontré de telles personnes qui s'aiment, et vous pourriez penser, très bien, c'est ça leur problème, mais comment cela m'affecte-t-il? Alors Paul nous dit, parce qu'ils sont amoureux d'eux-mêmes, ils seront aussi amis de l'argent, et pas seulement cela, mais ils seront arrogants. Vous savez le genre de visage arrogant. Et veulent que vous fassiez les choses comme ils l'entendaient. Ils n'aiment tolère pas ceux qui agissent différemment d'eux. Et parce qu'ils seront orgueilleux. Et nous savons que l'orgueil précède la chute. Alors ces gens atteindront un niveau où ils seront déchus. Et en tant que tels, ils seront également abusifs dans leur visage et ils seront également désobéissants à leurs parents, ingrats en toutes choses. Maintenant, rappelez-vous dans Apocalypse 3, auquel nous reviendrons plus tard, nous savons qu'ils pensent qu'ils sont riches, parce qu'ils ont prospéré en bien, mais les ennemis savent pas qu'ils sont réellement aveugles, misérables et nus, et pourtant ils n'aimaient le savent pas, donc leur conscience a également disparu. Alors Paul continue à dire, ils seront ingrats, et étant ingrats, ils seront aussi impies, et car ils n'aimeront pourront aimer, au verset 3 déclare-t-il, ils seront sans amour, et sans amour ils n'aimeront seront pardonnés, car même une mère ivre sait pardonner les fautes de ses enfants, mais celui qui n'aime pas, n'aimeront sait pas pardonner, alors ce sera un peuple sans compassion. Et parce qu'ils n'aimeront savent pardonner, ils parleront contre les autres et seront un peuple calomniateur. Et Paul continue, qu'ils seront également incontinents. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y aura rien qui contrôle leur comportement. Il n'y aura pas de normes, pas de discipline, pas de morale, pas de vérité, pas de conscience de Dieu. Il n'y aura rien sur quoi ils s'accrochent comme un absolu qui régulera leur comportement. Alors ils finissent par devenir brutaux, comme des bêtes brutes, n'aimant pas le bien, quatre mes traîtres et téméraires. En d'autres termes, ils seront prompts à accuser les autres, parce qu'ils sont vaniteux, et parce qu'ils sont prétentieux, et n'aimant pensant qu'à eux-mêmes, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. 5. Alors ayant une forme de piété ressemblance à Dieu, oui ils seront religieux, mais ils nieront sa puissance. Et donc Paul nous avertit de n'aimer rien avoir à faire avec de telles personnes. 6. Ils sont du genre à se faufiler dans les maisons et à prendre le contrôle des femmes crédules et glisses qui sont chargées de péchés et poussées par toutes sortes de mauvais désirs. 7. Apprenant toujours mais n'aimant pouvant jamais venir à une connaissance de la vérité. 8. De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse en résistant à son message, et lui ont résisté en faisant ce qu'il fit, l'imitant afin de réduire l'efficacité de son message, et ce faisant, il s'oppose à la vérité. Il le rejette, refuse d'entrer dans son message, empêche aussi ceux qui souhaitent y entrer réellement. Ce sont des hommes à l'esprit dépravé. Quant à la foi, la révélation de Jésus-Christ, ils sont rejetés. 9. Mais ils n'iront pas très loin parce que, comme dans le cas de ces hommes, leur folie sera rendue manifeste devant tous. Maintenant, laissez-moi lire ceci, à partir de la Bible amplifiée. Afin que nous puissions obtenir une meilleure compréhension de 2 Timothée 3, 1. Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux, de grands stress et de troubles, des jours difficiles qui seront durs à supporter. 2. Car les gens seront amoureux de soi, narcissiques, centrés sur eux-mêmes, amoureux de l'argent, poussés par la cupidité, vantards, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et profanes. 3. Ils seront sans amour, dépourvus d'affection humaine naturelle, insensibles et inhumains, inconciliables, bavards malveillants, dépourvus de maîtrise de soi, intempérants, immoraux, brutaux, haineux du bien. 4. Traîtres, téméraires, prétentieux, aimant les plaisirs sensuels plutôt que Dieu. 5. Attachés à une forme de piété extérieure, religion, bien qu'ils aient nié son pouvoir, car leur conduite annule leur revendication de foi. Évitez de telles personnes et tenez-vous loin d'elles. 6. Car parmi eux se trouvent ceux qui se faufilent dans les maisons et captivent les femmes moralement faibles et spirituellement en haine, alourdis par le fardeau de leur péché, facilement mus par diverses impulsions. 7. Apprenant toujours et écoutant ceux qui veulent leur enseigner, mais jamais capables d'arriver à la connaissance de la vérité. 8. De même que Jannès et Jambrès, les magiciens de la cour d'Égypte, s'opposèrent à Moïse. Donc ces hommes s'opposent aussi à la vérité, des hommes d'esprit dépravé, non qualifiés et sans valeur en tant qu'enseignants au regard de la foi. 9. Mais ils n'iront pas très loin, car leur absurdité et leur ignorance deviendront évidentes pour tout le monde, comme l'étaient celles de Jannès et Jambrès. C'est de cela que frère Branham parle. L'apôtre Paul a prophétisé ce que serait la condition des gens et de l'Église dans les derniers jours, lesquels jours nous vivons maintenant. Et je n'y pense pas qu'il faut être un érudit de la Bible pour voir et comprendre que nous vivons dans les derniers jours. Ensuite, au verset 2, l'apôtre Paul commence à décrire les attributs et les caractéristiques du peuple des derniers jours. 2. Car les hommes s'aiment eux-mêmes, et souvenez-vous de leurs fruits, par lesquels vous les reconnaîtrez. Alors comment saurons-nous que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes? Paul poursuit en disant parce qu'ils seront cupides, et être cupide signifie que vous cherchez vos propres intérêts, et non ceux des autres. Fanfaron, parlant toujours de soi, comme frère Branham en parle dans sa prédication, l'Éden de Satan, 29 août 1965 p. 56. Que Dieu fasse quelque chose pour une personne, qu'il l'envoie. Vous allez voir tout le monde chercher à imiter cela. Voyez-vous? Ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Chacun, moi, j'ai fait ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, ceci, ils s'établissent eux-mêmes. Quel est-ce le sujet de notre prédication, nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Établir la parole de Dieu. Ôter l'incrédulité du cœur de l'homme et établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu Néhémie ne peut pas être établi dans le cœur d'un homme. À moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il Néhémie ne peut pas être établi dans un. Et, souvenez-vous, ce qui est Esther trompeur là-dedans, c'est Esther que l'homme pense que c'est Esther vrai. Voyez, telle voix paraît droite à un homme. Tout intellectuel semble être dans le vrai. Alors oui, les hommes sont devenus des hautains, et ce qui est Esther plus triste, c'est Esther que les gens Néhémie ne peuvent pas faire la différence entre ceux qui parlent de ceux qu'ils ont vu Dieu faire, et ceux qui veulent que vous pensiez qu'ils ont accompli de manière surnaturelle, où le surnaturel a été accompli grâce à leur mérite. Mais le plus triste, c'est Esther que ceux qui se vantent sont généralement ceux qui expriment leur orgueil personnel sur la personne qui a légitimement vu et contemplé ce que Dieu a terminé. Mais tout vrai serviteur de Dieu Néhémie dira jamais « Regarde-moi, mais regarde-le », pointant vers Dieu. Je peux vous dire trois des choses que j'ai vu Dieu faire de mes propres yeux, et les gens charnels pensent que je dis cela de moi-même. Écoutez, la différence entre un homme appelé de Dieu et un homme charnel, c'est Esther que quand Dieu le fait, Dieu reçoit la gloire de l'un. Par contre, l'autre veut que vous pensiez qu'il s'agit de lui. Mais ceux qui accusent sont généralement ceux qui auraient aimé voir et participer dans ce que Dieu fait. Et ils le font parce qu'ils sont orgueilleux. Et étant orgueilleux, ils calomnient, accusent, et injuriant ce que Dieu utilise réellement. Et agissant ainsi, ils blasphèment. Et ainsi, nous entendons frère Branham continuer au paragraphe 14. Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 3, 14. L'âge de l'église de Laodicée. Comment serait l'église en ce dernier jour? Et ce serait. Il était dit qu'il deviendrait veuve et n'ayant besoin de rien. Qu'elle était riche et prospère en bien. Et Néhémie sachant pas qu'elle était pauvre, misérable, aveugle et nue. Et elle Néhémie le savait pas. 15 maintenant. Souvenez-vous, il parle à l'église de cet âge, misérable, aveugle, nu, et Néhémie le sait pas. Cette dernière phrase, ce dernier mot, Esther ce qui le rend si frappant. Ils pensent qu'ils sont bien remplis de l'esprit. Ils sont tous prêts. L'âge de l'église de Laodicée Esther l'âge de l'église pentecôtiste, parce que c'est Esther le dernier âge de l'église. Alors, dans quelles conditions se trouvent les gens de ce dernier âge de l'Église? Que Dieu veille sur nous et nous donne le collier du Saint-Esprit, afin d'ouvrir nos yeux sur notre propre condition, et que celui qui s'est égaré soit ramené par la grâce salvatrice de notre Seigneur et Sauveur. 16 Luther avait son message. Wesley avait son message. Et les pentecôtistes avaient leur message. Aussi, a-t-il dit, parce que tu es à tiède, ni chaud ni froid, les émotions de l'extérieur, la conception mentale de l'évangile. Parce que, il a dit, tu es ainsi, je te vomirai de ma bouche. En d'autres termes, cela l'a rendu malade de voir l'église dans cette condition. Et rappelez-vous, ils l'ont vomi. Et il était à l'extérieur de l'église, essayant de retourner à l'intérieur dans cet horrible âge de l'église de Laodicée. Aujourd'hui, cette écriture Esther accomplie 19 février 1965 p. 54. Maintenant, nous admettons que les conditions dont il est parlé concernent l'état mondain de Sodome, les sodomites, la condition sodomite. Nous dirons tout amen à cela. Nous croyons cela. Très bien. 191 est concernant la condition spirituelle de l'Odyssée. L'Église naturelle. Nous dirons amen à cela et nous accepterons leur signe. Nous savons que chaque signe Esther là. L'Église Esther dans l'Odyssée. Nous savons cela. L'Assemblée dit, amen. -NDE 192 Nous savons que le monde Esther dans une condition sodomite. Esther c'est vrai? L'Assemblée dit, amen. -NDE Nous accepterons cela. 193 Mais qu'en est-il du signe d'Abraham? Celui qui attendait le fils promis? C'en était un autre. 194 Souvenez-vous en. Autrefois, ils avaient une Sodome, ils avaient leur messager. Et Abraham avait un messager à lui. 195 Abraham attendait jour après jour l'accomplissement d'une chose presque impossible. Sarah avait 90 ans et lui, 100. Il attendait toujours, selon la promesse de Dieu. Au milieu de toutes ces critiques, il attendait ce fils-là. 196 Il en Esther de même du véritable croyant qui attend toujours que le fils promis retourne. Remarquez, juste avant que le fils n'arrive, un signe lui a été donné. Le signe du fils qui vient, Néhémie doit-il pas être révélé à la semence royale d'Abraham qui attend le fils royal? De même qu'il en était pour notre père Abraham qui attendait le fils naturel? L'Assemblée dit, amen. -NDE Esther c'est vrai? Amen. Jésus l'a dit dans Saint Luc 17, 30, avant que ce temps n'arrive, le Fils de l'homme sera révélé comme il en était au jour de Sodome, avant la destruction de Sodome. Maintenant, nous attendons un signe. Alors nous nous y attendions et c'est Esther arrivée, et presque personne n'est mis, c'est que Dieu Esther descendu avec un cri, lequel Esther un message. Le monde ecclésiastique Esther conscient que nous sommes au temps de la fin, mais il continue toujours à regarder vers le bas de la route, ignorant ce que Dieu fait et a fait à cette époque. Spirituellement aveugle, sans le savoir. Pourquoi? Parce que leurs églises sont plus grandes et plus coûteuses qu'à n'importe quelle autre époque, et cela les aveugle, quant à leur état de nudité devant Dieu. Et tu n'es aimé le CEPA 15 août 1965 p. 14. Mais étant donné que c'est à l'âge de l'église de la Odyssée dans lequel nous sommes, considérons juste la condition. Je n'ai aimé veut pas prendre de texte ou quoi que ce soit, parce que nous n'y sommes pas. Il parle juste avec des involtures, comme nous le voyons faire, tout ce que le Seigneur nous amènerait à faire. Mais quelque chose qui nous aiderait. Pensons à l'âge de l'église de la Odyssée, et à ses conditions, aujourd'hui. Autant que je sache, je n'ai mis voir rien d'entrave pour le moment, la venue du Seigneur Jésus, en dehors de la préparation de son église. Je pense que c'est Esther l'une des prophéties. Et il a déclaré ces choses, il y a 57 ans, et ceux qui l'ont entendu Néhémie sont toujours pas prêts. Et pourquoi? Parce que le monde et les choses du monde, comme les épines dans la parabole de Jésus, ont aveuglé les gens sur leur véritable condition. Frère Branham dit dans sa prédication, l'amnésie spirituelle 11 avril 1964 p. 50. Mais l'Église aujourd'hui a un cas grave d'amnésie spirituelle. Elle n'émissait pas ce dont il fait partie. Elle a oublié tout cela. Elle a oublié toutes ces choses qui font d'elle une église. Ce qui nous a rendus très riches comme nous le sommes. On Esther encore à la condition de la Odyssée. De nouveau à cette condition de richesse, comme l'était Israël. Lorsqu'ils étaient pauvres et qu'il leur fallait se confier en Dieu pour toutes choses, ils pouvaient faire tout ce que Dieu. Ils se confiaient en Dieu. Ainsi Dieu était avec eux, et spirituellement ils allaient de l'avant. Mais lorsqu'ils sont devenus riches, voici ce qui est arrivé, on a bâti des villes, et les femmes étaient devenues immorales, les hommes permettaient cela, leurs prédicateurs ont baissé les barrières, et ils ont rejeté les prophètes. Et c'était là le genre de condition dans laquelle ils sont tombés. La cause de cela, c'est-à-dire qu'ils avaient oublié la source de ces bénédictions. Voyez-vous, vous les méthodistes, vous les baptistes, et vous les presbytériens, vous les méthodistes, vous ne pouvez même pas vous rappeler John Wesley. Vous les baptistes du John Smith a pleuré sur les problèmes des gens, si bien que sa femme devait l'amener à la table. Ses yeux enflés s'étaient fermés parce qu'il avait pleuré et prié toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? John Wesley a dit l'une des grandes choses. Je crois que l'un des premiers pères méthodistes a dit que la honte des filles de l'église méthodiste c'était que, elles étaient devenues si mondaines qu'elles portaient des bagues aux doigts. Que dirait-il aujourd'hui où elles portent des shorts? Qu'est-ce qu'il est arrivé? L'amnésie spirituelle. C'est exactement ce qu'il en est. Vous avez oublié d'où vous venez. Vous avez toutes ces choses parce que le don, la bonté de Dieu vous les a données. L'âge de l'église de la Odyssée 11 décembre 1960 p. 32. Maintenant, à la Odyssée. L'âge de la Odyssée. Le mot signifie tiède. Elle a prospéré en bien, et pense n'avoir besoin de rien. Mais la Bible dit qu'elle est malheureuse, aveugle, misérable et nue. Quel état! La récompense pour ceux qui vaincront dans cet âge de l'Église, Esther de s'asseoir avec le Seigneur, sur le trône. Et ainsi, focalisons notre attention, maintenant, pour le reste de notre prédication sur le fait de vaincre, et ce qu'il faut pour vaincre. La traduction Vuest dit, la lampe du corps Esther l'œil. Si donc votre œil Esther en un seul foyer pur, tout votre corps sera bien éclairé et en bonne santé. Mais si ton œil Esther malade, tout ton corps sera plein de ténèbres, et c'est Esther le problème avec cet âge de la Odyssée, parce que les gens sont aveugles et misérables. Et Néhémie savent pas qu'ils sont nus. Mais le Saint-Esprit a dit à cet âge, Apocalypse 3, 18, oint tes yeux avec un collyre, afin que tu puisses voir. Et comment se fait-il que la Odyssée ait besoin de collyre? Parce qu'elle est malade, malade, malade. Dans le message à l'église de la Odyssée 9 juin 1958 37, frère Branham dit, je vous le dis, frère, il y a eu un vent froid dans l'église. Et l'église pentecôtiste a attrapé un mauvais rhume quelque part. Et il faudra plus que de la graisse de raton laveur pour leur ouvrir les yeux à la vérité. Il a dit, je vais vous donner un peu de collyre. Et ce collyre vous ouvrira les yeux. Et si la prédication de la parole Néhémie le fait pas, je Néhémie connais pas d'autre collyre. Le Saint-Esprit réchauffe la parole. Et ce soir à travers l'Église. Et l'Église aime cette parole. Certainement. Et cela ouvre les yeux. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est-à-dire que vous, Néhémie, devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui estère en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ? Maintenant, examinons l'autre attribut dont frère Branham a parlé concernant le peuple de la Odyssée, celui de ces cités que nous avons trouvé dans Apocalypse 3, 17-18. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu n'es mis, c'est pas que tu es aille malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18 Je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité n'y paraisse pas, et un collier pour oint dans tes yeux, afin que tu vois. Au paragraphe 159 de Christ est à révéler dans sa propre parole. Maintenant, si un homme, dans l'église de la Odyssée, comment étaient les gens? Nus le sont-ils? Aveugles. Quel bien la lumière peut-il faire à un aveugle? Si l'aveugle conduit un autre aveugle, Néhémie tombe-t-il pas tous deux dans le trou? Par conséquent, nous avons besoin de focaliser nos pensées sur cette autre condition d'aveuglement. Maintenant, souvenez-vous, frère Branham, nous a dit que toutes ces conditions perverties étaient causées par une théologie tordue. Ainsi, nous voyons l'importance de rester avec le ainsi dit le Seigneur. Maintenant, nous posons la question qu'est-ce que la cécité? Et nous constatons que Webster définit la cécité comme étant le manque du pouvoir de la vue, et nous avons constaté que cette compréhension correspond parfaitement à ce que frère Branham a dit, il n'y croit même pas au pouvoir de la révélation. Webster a également dit, la cécité n'est pas capable ou désireux de remarquer, de comprendre ou de juger, sans tenir compte des preuves et de la logique saine. Ainsi, nous voyons alors que cette cécité que nous considérons est une condition du cœur et un attribut qui reflète une attitude d'ignorance volontaire et d'autotromperie. Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors on voit que cet aveuglement n'est pas seulement quelque chose qui nuit à leur bien-être spirituel, mais nous voyons aussi qu'il est quelque chose qui est auto-infligé aussi. En d'autres termes, ils sont aveugles, mais Dieu lui-même leur a donné un moyen de sortir de leur condition d'aveuglement. Mais ces gens refusent volontairement leur seul moyen de s'en sortir, et c'est ce qui les différencie des élus de Dieu. Les élus et les non-élus ont la même opportunité de recevoir la parole, parce que la parole n'a pas été proclamée dans un coin. Ce n'était pas un murmure qui Esther descendu à cette heure, c'était un cri. Et cela a été entendu dans le monde entier, dans tous les pays parmi tous les peuples. Mais la différence entre les élus et non-élus, c'est que les élus sont plus que disposés à accepter la correction de la parole, tandis que les autres de s'enfuir. Le 6e Sopé, 36. La chose qu'ils avaient rejetée, ils avaient rejeté la miséricorde pour la dernière fois. Et quand vous rejetez la miséricorde, il n'y reste plus que le jugement. Quand vous rejetez la miséricorde, pensez-y simplement. Et ils étaient là. Ils n'avaient nulle part où aller, aucun refuge. Et la Bible dit ici, ils crièrent aux rochers et aux montagnes pour tomber sur eux, et les cacher de la face de la colère de l'agneau. Ils avaient essayé de se repentir, mais l'agneau avait venu réclamer les siens. Voyez, et ils crièrent aux rochers et aux montagnes, prière, mais en retard. Maintenant, je veux que vous remarquiez la condition de cet aveuglement à l'époque de la Odyssée. Parce que le peuple reçoit un remède pour cela, qui guérira leur cécité, et on leur dit que s'ils ne veulent plus être aveugles, ils devraient suivre un certain traitement, une certaine prescription que Dieu lui-même, le grand médecin, est descendu pour nous donner, ce qu'il a appelé collier. Apocalypse 3, 18. Et un collier pour oint dans tes yeux, afin que tu vois. Matthieu 13, 10 à 17. Les disciples s'approchèrent, et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? 11 Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'est mis, il n'aura pas été donné. » 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 Sister pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ils n'aiment voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni n'aiment comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous n'aiment comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous n'aiment verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'aiment voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aiment comprennent de leur cœur, qu'ils n'aiment se convertissent, et que je n'aiment les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et n'aiment ils l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'aiment ils l'ont pas entendu. Ainsi donc, il y a une ouïe qui apporte la perception, et une vue qui apporte la compréhension. Alors si nous voulons mieux comprendre ce qu'Esther sait aveuglement dans son victime les habitants de la Odyssée, nous devons comprendre ce que veut dire voir, car cet aveuglement Esther une absence de vue, et donc une absence d'entente. Et rappelez-vous, les vierges folles avaient une lampe, et nous savons d'après Psaume 119, 105, la parole de Dieu, Esther une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais les vierges folles avaient des lampes, donc elles avaient la parole. Mais elles n'ont pas reconnu qu'elles devaient avoir de l'huile dans leur vase, pour faire fonctionner la lampe, la parole, et produire ce qu'elle Esther censée faire, pour montrer et éclairer le chemin. Mais celle-ci n'avait pas d'huile, représenta beaucoup d'endroits, comme étant une onction. Nous voyons donc, selon Apocalypse 3, que si nous refusons le collyre, nous refusons la capacité de voir clairement. Et ce collyre Esther une huile d'onction qui Esther appliquée sur les yeux afin de corriger tout problème qui nuit à notre vision. Maintenant, en comprenant ce qu'Esther cette huile d'onction, nous avons constaté que dans presque toutes les écritures faisant référence à l'huile d'onction, elle devait être appliquée dans un but. Exode 29, 21 Tu prendras du sang, qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Exode 40, 9 Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Ainsi, nous voyons le but de cette huile d'onction, c'est Esther pour consacrer nos vases à Dieu, pour nous rendre saints. Et je pense que c'est Esther un type merveilleux de Hébreux 12, 14, qui nous dit que sans cette sainteté, personne n'aimera verra le Seigneur. Ainsi, nous voyons le but de l'huile d'onction, c'était pour amener les vases à l'endroit de la sanctification. Et à moins que vous n'aimiez soyez dans cette condition, vous n'aimiez serez jamais capable de plaire au Seigneur. Lévitique 8, 10 Moïse prit l'huile d'onction, éloignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. 11 Il en fit cette fois l'aspersion sur l'autel, et éloignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. 12 Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloignit, afin de la sanctifier. 30 Moïse prit de l'huile d'onction et du sang, qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Et une fois que les vases étaient sanctifiés et mis à part pour le service pour Dieu, il n'était plus autorisé qu'ils soient mélangés avec autre chose. Lévitique 10, 7. Vous n'y sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous n'y mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel estère sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Lévitique 21, 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, Néhémie découvrira point sa tête et Néhémie déchirera point ses vêtements. Il Néhémie sortira point du sanctuaire, et Néhémie profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu estère une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Maintenant, nous sommes appelés à faire de même en cette heure, alors que nous voyons dans Jacques au chapitre 5. Jacques 5, 7-20. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la parousie du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car la parousie du Seigneur est proche. 9. Néhémie, vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous Néhémie soyez pas jugés. Voici, le juge Esther à la porte. Disprenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 12. Avant toute chose, mes frères, Néhémie jurait ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous Néhémie tombiez pas sous le jugement. 13. Quelqu'un parmi vous est stérile dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est stérile dans la joie, qu'il chante des cantiques. 14. Quelqu'un parmi vous est stérile malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en l'aignant du au nom du Seigneur. 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 1.6. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 17. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il Néhémie plus point, et il Néhémie tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'estère égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 20. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et nous voyons aussi que cette onction nous aide à voir, comme l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, qui nous est donné, afin que nous puissions être capables de voir, et nous voyons cela aussi dans 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Maintenant, nous lisons au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous voyons dans le livre des Romains que la foi est un don suprême de Dieu. Romains 5, 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 4, 16 sesterces. Pourquoi les héritiers le sont par la foi? Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit sûre à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, nous n'aimons pouvons pas dire que nous croyons et ensuite que nous avons la foi. Car la foi est une révélation, et croire est juste le fait de savoir lire. Éphésiens 2, 8-9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'est vient pas de vous. C'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne n'ait se glorifie. Je parle à certaines personnes qui n'aiment y croient pas. Il est clair qu'ils n'aiment y croient pas, parce que leur vie montre qu'ils n'aiment y croient pas, et pourtant je leur demande s'ils croient et ils disent que oui. Ainsi, la foi est quelque chose qui nous emmène bien au-delà d'une simple croyance intellectuelle. Romains 3, 3-4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 4. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Maintenant, je voudrais pousser l'argument de Paul un peu plus loin et le lire de cette façon. Et si certains disaient qu'ils croyaient, leur déclaration suffirait-elle? Certainement pas. Que chaque parole d'homme soit un mensonge. Et ma parole, vrai, dit le Seigneur. Maintenant, alors nous pouvons voir à travers ces diverses écritures, que Dieu nous a appelés à appliquer un collyre, lequel est une onction aux yeux de notre cœur. Nous savons que l'huile signifie l'onction, et donc, elle signifie l'onction du Saint-Esprit sur notre entendement. Par conséquent, nous voyons avec les yeux de notre cœur, et donc nous devons aussi recevoir une onction sur les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions la parole qui nous a été donnée. Remarquez, à quel point le cœur est étroitement lié à l'aveuglement des yeux. Jean 12, 40. Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils n'aient mis voient des yeux, qu'ils n'aient mis comprennent du cœur, qu'ils n'aient mis se convertissant, et que je n'aie mis les guérisse. De Pierre 2, 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les aimes mal acquis affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ainsi, nous voyons la relation entre les yeux de notre compréhension et la condition du cœur. Maintenant, nous voyons le but de l'onction de Dieu, avec, parmi et sur les gens au temps de la Odyssée dans Éphésiens 1, 17-18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Romains 5, 1-5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, de à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5. Or, l'espérance n'est mis trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Sans la foi, nous n'aimons pourrions jamais être justifiés. Et si jamais justifiés, alors comment pourrions-nous être sanctifiés? Et si jamais sanctifiés, alors comment pourrait-il être possible que Dieu place son Saint-Esprit dans un vase souillé. Car en fait, frère Branham nous a dit que Dieu n'y placera jamais son esprit dans un vase souillé. Nous voyons donc que cette espérance Néhémie nous fait pas rougir. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas honte, c'est Esther parce que nous avons été justifiés. Ce qui Esther produit par la foi, laquelle Esther une révélation. Cette révélation s'Esther ouverte à nous et nous a donné accès dans la grâce de Dieu, qui nous amène alors dans une relation paisible avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui Esther le juge. Cette paix avec Dieu nous amène alors dans une vie dédiée et consacrée et sanctifiée, qui ensuite ouvre la porte à la demeure de l'Esprit de Dieu, qui Esther saint. C'est Esther pourquoi, comme nous en avons le matin, la parole de Dieu Néhémie vous fera aucun bien, si elle n'a pas été ointe pour vous. Et cette onction, nous le savons, Esther la foi ou la révélation dans la parole. Une fois que vous avez reçu cette onction, la parole devient une espérance vivante, un désir vivant de voir et de participer à la réalisation et aux bénédictions de ce que contient cette parole. Non seulement cela vous justifie, mais quand vous arrivez à avoir la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Esther le juge suprême, alors cela produit en vous de la confiance, une confiance qui n'est mis peut-être ébranlée. Éphésiens 3, 12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Maintenant, je n'ai mis dit pas que nous devrions avoir confiance en cette chair. Ce que je dis plutôt, c'est Esther que notre confiance Esther en Dieu et en ce qu'il a dit de vous. Comment pouvez-vous avoir confiance en cette chair, vu que vous devez vous débarrasser de cette chair pour recevoir votre translation, parce que la chair et le sang n'hériteront pas de la royaume de Dieu. Éphésiens 3, 3 Esther, par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et puis Paul a dit, si quelqu'un devait avoir confiance en la chair, ce serait moi. Mais je n'en ai nullement confiance, parce que même si j'ai vécu une vie très vertueuse sans enfreindre les commandements de Dieu, je me suis retrouvé combattre Dieu sans même le savoir. Éphésiens 3, 4-10 en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 6. Ce mystère, c'est-à-dire que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, celle dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. 8. À moi, qui suis le moindre de tous, les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. 9. Et de mettre en lumière qu'est Esther la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Hébreux 3, 6-14. Mais Christ l'Esther, comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est Esther nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Cette Esther pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 8 n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. 9 où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. 10 aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. 11 je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 12 prenez garde. Frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui. afin qu'aucun de vous n'ait mis s'endurcisse par la séduction du péché. 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et comment tenir bon avec confiance jusqu'à la fin? Pas en vous appuyant sur votre corps mortel. Je regarde autour et vois beaucoup qui aiment le Seigneur et pourtant, en vieillissant, ils deviennent moins disciplinés dans leur vie et ils commencent à faire des choses qu'ils savent qu'ils ne devraient pas faire. À mesure que le corps vieillit, il devient plus faible et commence à perdre ses réflexes, parce qu'il périt. Nos esprits forts s'affaibliront et nos fortes convictions commencent à décroître, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et bien que nous puissions avoir été très forts dans la foi à un moment donné, plus nous devenons faibles dans le corps, plus nous dépendons de Dieu pour nous sauver de nous-mêmes. Est-ce la parole seule qui l'accomplira? Non, si elle n'est pas loin de la présence de Dieu. De même Jésus a averti au sujet de la condition au temps de la fin, quand il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et nous savons que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc quelque chose doit arriver, qui nous délivrera de cette condition, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tenir dans sa présence, dans notre état actuel. Et alors qu'est-ce ce qui doit arriver? Il a dit qu'il nous donnerait un collier pour que nous puissions voir, et un vêtement correct, pour que nous ne soyons plus nus et honteux. Et il nous donnerait de le réprouver par le feu, et qu'est-ce que c'est-ce? Selon 1 Pierre 7, c'est l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. Et l'or représente également la divinité. Vous voyez donc que Dieu est descendu en cette heure, car s'il n'était pas venu nous donner ces choses, nous n'aurions sûrement aucune espérance pour le salut. Non seulement cela, nous n'aurions aucune espérance de vie éternelle après la mort, mais nous n'aurions aucune espérance de vie dans cette chair. Parce que nous sommes au moment de l'effondrement du monde, et les hommes se bousculent pour faire quelque chose à ce sujet, et ils mettent en place un nouvel ordre mondial, dans l'espoir que ce sera la réponse à l'effondrement et à la décadence de chaque institution que l'homme a créée. Les systèmes politiques du monde se sont effondrés, les systèmes religieux se sont effondrés, les systèmes économiques se sont effondrés, les systèmes éducatifs se sont effondrés, la maison et l'institution familiale se sont effondrés, et tout ce qui concerne la vie telle que nous la connaissons, soit déjà effondré, soit en train de s'effondrer. Il est plus tard que vous n'ayez aimé le penser. Il a promis dans le livre de Malachie que s'il n'ayez venait pas, il n'y aurait pas d'espoir et qu'il devrait détruire la terre par le feu. Vous pourriez dire, eh bien, il va être détruit par un incendie de toute façon. Alors quelle différence? Eh bien, la grande différence est qu'il est venu pour sauver les siens. Il a dit au chapitre 3, qu'il nous épargnerait comme un homme épargne ses propres enfants. Christ est le mystère. 28 juillet 1963-65-3 Nous n'y sommes pas censés convertir au christianisme par un gouvernement, mais par la révélation de Christ en vous, comme Dieu était en Christ. Combattre sincèrement pour la foi 23 janvier 1955-28 Il avait une foi intellectuelle, mais il n'avait pas de foi divine. Il y a une grande différence entre le fait que j'ai une foi intellectuelle qu'une foi divine. C'est-à-dire là où vous, mes amis baptistes, faillissiez. Vous obtenez la foi intellectuelle par cela, mais ce doit être une révélation divine de Jésus-Christ, à vous, qui provient du cœur. La foi intellectuelle n'y suffit pas. C'est-à-dire juste, mais cela n'y vous amène qu'au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle de la naissance, de la nouvelle naissance, la régénération, faisant une nouvelle créature en Christ. Christ Esther le mystère 28 juillet 1963 36-4. Regardez, Christ en vous. Cela fait de lui le centre de la vie de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Voyez, ce que Dieu essaie de faire. 234 Qu'est-ce qu'est-ce la nouvelle naissance alors? Vous direz, bien, frère Branham, qu'est-ce la nouvelle naissance? C'est-ce la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement? Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ en vous. C'est cela. La révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. Christ Esther le mystère. 28 juillet 1963 37-4. La nouvelle naissance. C'est Christ. C'est la révélation. Dieu vous révèle ce grand mystère. Et c'est cela. Une nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire lorsque vous rassemblerez tout ce groupe-là où la révélation est parfaitement en harmonie, et où Dieu exprime cela à travers sa parole au moyen de mêmes actions, de mêmes choses qu'il faisait, rendant la parole manifeste? Oh, si seulement l'Église connaissait sa position, elle le saura un jour. Alors l'enlèvement aura lieu, lorsqu'elle saura ce que c'est Esther. Christ Esther le mystère. 28 juillet 1963 45-1. Dieu se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous? Pas votre théologie. C'est la révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Aucun autre rocher n'est accepté. Rien d'autre n'est accepté. Pas un autre rocher romain. Pas un autre rocher protestant, pas d'autres écoles, ni rien d'autre, mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. C'est là-dedans qu'il naît, et qu'il injecte sa propre vie, et votre vie disparaît. Et la vie de Christ jaillit elle-même de vous, ayant la prééminence, vers les gens pour qu'ils voient cette véritable vie, accompagnée des œuvres, des signes et des prodiges qu'il fit. Il fait la même chose au travers de vous. En dehors de cela, les autres choses Néhémie sont même pas mentionnées du tout. Prions.